Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du lundi 9 novembre 2015. Au sommaire ce soir...
Burundi, le gouvernement lance une vaste opération de désarmement forcé à Bujumbura.
République centrafricaine, publication du chronogramme des élections législatives et présidentielles.
Ce calendrier prévoit le référendum au 13 décembre 2015, le premier tour des élections groupées le 27 décembre et le second tour le 31 janvier 2016.
À Dakar, ouverture aujourd'hui de la seconde édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique.
Espagne, la Catalogne lance un processus de rupture avec le reste du pays.
Leur mésentente, notamment sur le nucléaire iranien, est connue de tous, mais aujourd'hui à la Maison-Blanche, Barack Obama et Benjamin Netanyahou ont réaffirmé la solidité des liens entre les États-Unis et Israël.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Au moins une personne a été tuée par balle ce lundi à Bangui et plusieurs maisons ont été incendiées au cours d'affrontements entre des musulmans et des miliciens anti-Balaka, rapporte l'AFP, citant une source policière. Selon cette source, les violences ont été déclenchées par les musulmans mécontents d'avoir été empêchés d'organiser une marche en direction du quartier général de la MINUSCA, la force onusienne de maintien de la paix.
Par ailleurs, les choses se précisent pour les prochaines élections législatives et présidentielles. L'Autorité nationale des élections, ANE, a publié ce lundi un nouveau chronogramme. En même temps, la liste des électeurs commençait à être affichée dans le premier arrondissement de Bangui. On fait le point avec Freeman Sipila.
Ce calendrier prévoit le référendum au 13 décembre 2015, le premier tour des élections groupées le 27 décembre et le second tour le 31 janvier 2016. Reste maintenant à savoir si ce nouveau calendrier, fruit d'une concertation préalable de l'ANE avec les forces vives de la nation, sera approuvé par toutes les parties. Plus tôt dans la matinée, c'est la liste électorale qui commençait à être publiée à Bangui. Selon Richard Guéré-Baba, président de la commission des opérations électorales de l'ANE, ce processus lancé ce lundi dans le premier arrondissement de Bangui s'étendra dans toute la ville ainsi qu'à l'intérieur du pays.
C'est une dynamique. L'opération est déjà lancée. À partir d'aujourd'hui, nous allons faire un effort d'afficher dans tous les bureaux de vote, comme ici à Bangui et également dans l'arrière-pays. Et nous invitons la population à venir consulter la liste pour vérifier si leur nom figure ou pas, ou encore si leur nom a été mal orthographié afin de traiter le contentieux et puis les remettre sur la liste.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Burundi, au moins 2 personnes ont été tuées et un policier blessé à Musaga, quartier contestataire de Bujumbura. Eddie Isango.
Les autorités burundaises ont lancé une vaste opération de recherche d'armes dans plusieurs quartiers contestataires de Bujumbura. Craignant les pires, plusieurs habitants ont fui leur maison. Ce matin à Musaga, un policier a été blessé et 2 civils tués. Samedi, peu avant l'expiration de l'ultimatum lancé par le président Pierre Nkurunziza, son conseiller Willy Nyamitwe a assuré qu'il n'y aura pas de guerre ni de génocide. International Crisis Group avait averti que le pays risquait de sombrer dans la guerre civile. Le Rwandais Paul Kagame accusait de son côté les dirigeants burundais de massacrer leur peuple. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, s'est insurgé contre l'impunité généralisée. Les conseils de sécurité de l'ONU se réunissent lundi à la demande de la France pour évoquer l'escalade des tensions et surtout écouter Zaïd Raad Al-Hussein, haut commissaire aux droits de l'homme, sur la détérioration rapide de la situation au Burundi.
Évasion à la prison centrale de Libreville. Une 10aine de détenus se sont évadés, mais certains ont déjà été repris, selon le correspondant de VOA Afrique au Gabon. Les opérations de recherche sont en cours pour retrouver ceux qui se sont fait la belle. Dimanche, les détenus ont d'abord pris en otage quelques gardiens de prison avant de s'évader. Des unités spéciales de gendarmerie et de la police sont intervenues sur place. Elles ont tiré des coups de sommation pour dissuader les prisonniers, selon les populations vivant autour de la prison. La prison centrale de Libreville est surpeuplée, conçue pour accueillir 300 détenus. Elle en renfermerait aujourd'hui plus de 1500.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a annoncé aux ambassadeurs accrédités à Kinshasa l'ouverture imminente d'un dialogue national en vue d'élections apaisées. Ce dialogue devrait porter sur le calendrier électoral et le financement et la sécurisation des élections, a déclaré un autre diplomate à l'AFP.
Attentat suicide au Nigeria, 3 civils et 2 femmes kamikazes ont été tuées près d'une mosquée à Fotokol, ville frontalière du Nigeria dans l'extrême nord du Cameroun.
Dans le nord-est du Mali, l'armée française a découvert des caches d'armes lors d'une importante opération dans l'Adrar des Ifoas. C'est ce qu'annonce le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian.
Et Guinée, une mutinerie a éclaté à la prison civile de Conakry, faisant au moins 10 de blessés parmi les prisonniers, ainsi que parmi les gardiens de cet établissement surpeuplé, dont les autorités guinéennes ont repris le contrôle dans l'après-midi. C'est ce que rapporte l'AFP.
Coup d'envoi ce lundi de la campagne électorale pour la présidentielle ougandaise de février. 8 candidats sont en course, y compris le président Museveni, qui brigue son 5e mandat.
Au Zimbabwe, un député et 16 partisans de l'opposition ont été arrêtés lors d'un rassemblement, a annoncé le Mouvement pour le changement démocratique, MDC, principal parti d'opposition du pays, que cite l'AFP. Selon un porte-parole du parti, la police a interdit dimanche à la dernière minute le meeting du MDC dans la banlieue de Harare. Elle a frappé des partisans de l'opposition et tiré des gaz lacrymogènes en direction de ceux qui se rendaient à la réunion. Pas de réaction de la police pour l'heure.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Entretien ce lundi à la Maison-Blanche entre le président Barack Obama et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'est la première rencontre entre les deux leaders depuis octobre 2014 et la signature en juillet 2015 de l'accord international sur le programme nucléaire iranien. Précision, Timothée Donangmaï.
Barack Obama a assuré qu'il examinera avec M. Netanyahou les moyens de faire baisser la tension entre Israéliens et Palestiniens. Notant que le protocole d'entente sécuritaire entre les États-Unis et Israël expire dans 2 ans, le chef de l'exécutif américain a exprimé la volonté de prendre de l'avance dans les préparatifs des négociations sur ce dossier. Concernant la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire iranien, le président Obama a reconnu qu'une nette divergence de point de vue subsiste avec le premier ministre Netanyahou, mais qu'il n'y a aucun désaccord quant à la nécessité d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Le premier ministre Netanyahou a, de son côté, remercié le président Obama pour son engagement à renforcer la sécurité d'Israël et maintenir son avance militaire.
Un policier jordanien a tué aujourd'hui par balle 2 instructeurs américains et un autre sud-africain avant d'être abattu. Les faits se sont déroulés dans un centre d'entraînement de la police à l'est d'Amman, a indiqué le porte-parole du gouvernement jordanien. Les précisions de Nicolas Pineau.
Oui, le capitaine Anwar Abu Zeid a aussi blessé 2 autres instructeurs américains et 4 jordaniens avant d'être tué par ses camarades. Une enquête est en cours pour déterminer les motivations du crime et les circonstances, a indiqué le porte-parole du gouvernement jordanien. L'attaque s'est déroulée dans le centre international jordanien pour l'entraînement de la police dans la région d'Al-Mouaker, à 30 kilomètres à l'est d'Amman. L'ambassade américaine n'a pas commenté les faits dans l'immédiat, se contentant de dire qu'elle était en contact avec les autorités jordaniennes compétente. Le roi Abdallah II et la reine Rania de Jordanie ont participé ce lundi à une cérémonie de recueillement à la mémoire des victimes de ces attentats. Cette attaque coïncide avec le 10e anniversaire des attentats suicides revendiqués par Al-Qaïda contre des hôtels à Amman, dans lesquels 60 de personnes avaient été tuées, 10 d'autres blessées. C'était le 9 novembre 2005.
Une première en Espagne, le Parlement de Catalogne a adopté aujourd'hui une résolution lançant le processus de rupture avec le reste du pays en vue de la création d'une république indépendante au plus tard en 2017. Salwa Jafari.
72 députés sur 135, soit l'intégralité des élus des 2 listes indépendantistes, ont voté pour le texte. Dans la salle, il y avait aussi des mécontents. Les opposants ont accueilli la nouvelle debout, en silence, en déployant des drapeaux de l'Espagne et de la Catalogne. Un vote historique, le texte a pour but de lancer le processus de création d'un État catalan indépendant, prenant la forme d'une république. Cette décision déplaît fortement à Madrid. Un peu plus d'une heure après le vote, le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a annoncé un recours devant la Cour constitutionnelle pour contester le texte et la convocation à cet effet d'un Conseil des ministres extraordinaire dès mercredi. L'annonce de cette rupture intervient à moins de 2 mois des législatives du 20 décembre en Espagne, où la question catalane domine la campagne.
L'un des activistes les plus recherchés en Égypte a été tué au Caire, selon le ministère égyptien de l'Intérieur, Ashfar Ali El Gharabdi, un agent de haut rang du groupe État islamique, a ouvert le feu alors qu'il tentait d'échapper à son arrestation.
Au Myanmar, anciennement Birmanie, le parti de Aung San Suu Kyi s'achemine vers une victoire écrasante aux législatives. Les responsables électoraux ont annoncé ce matin que la Ligue nationale pour la démocratie a déjà remporté 12 sièges de députés rien qu'à Rangoon, la principale ville du pays. Selon un porte-parole, des données non officielles indiquent que le parti a remporté 70% du vote à l'échelle nationale.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui et sur VOA Afrique.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Nathalie Barge.
Démission ce lundi du PDG de MTN, groupe de téléphonie mobile sud-africain Sifiso Dabengwa, suite à la grosse amende infligée par le régulateur national du Nigeria. Le géant africain a été condamné en octobre à 5,2 milliards de dollars pour n'avoir pas débranché à temps les cartes SIM dont les propriétaires n'étaient pas identifiés. Le président intérimaire pour 6 mois maximum est Putuma Nweko, l'actuel président du conseil d'administration du groupe. L'amende a entraîné une chute de 17,5% du cours des actions de MTN à la bourse de Johannesburg. La compagnie pétrolière nationale nigériane affirme être sur le point de faire une découverte importante de pétrole dans le bassin du lac Tchad. Dans un communiqué dimanche, le directeur général de la NNPC, Ibe Kachikou, a déclaré qu'il ferait une annonce majeure d'ici la fin de l'année. Les explorations menées en 2012 dans l'état de Borno avaient été interrompues à cause de l'insurrection djihadiste. Le Nigeria est le premier producteur de pétrole brut en Afrique et le 6e exportateur mondial. Profondément préoccupé par la faiblesse du commerce international, l'Organisation de coopération et de développement économique a revu à la baisse ce lundi ses prévisions de croissance mondiale pour 2015 et 2016. L'OCDE s'attend désormais à une croissance de 2,9% cette année contre 3% espéré auparavant et 3,3% l'année prochaine contre 3,6%.
Merci Nathalie Barge.
Les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Le Nigeria, vainqueur de la Coupe du Monde des cadets face au Mali.
Les tenants du titre ont battu les Aiglonais maliens 2-0 dans cette finale 100% africaine qui avait lieu la nuit dernière au stade Vilna Del Mar. Le Nigeria enlève sa 5e couronne mondiale de la catégorie. Pour une première finale, les Maliens peuvent être fiers, comme l'explique le président de la Fédération malienne de football. On écoute le général Baba Diarra.
Un parcours de plus que honorable. Et nous sommes très contents, nous sommes fiers de notre équipe. Nous souhaitons vraiment garder l'effectif pour la prochaine compétition internationale. Et cette équipe a besoin d'être encore mieux encadrée et mieux organisé, vraiment bien suivi. Voilà, c'est ce qui reste à faire pour qu'on puisse obtenir la consécration dans 2 ans encore.
Le général Baba Diarra joint au Mali juste avant le départ de l'équipe malienne pour rentrer à Bamako. Une interview que vous entendrez plus longuement dans Sporama.
La Fédération internationale d'athlétisme donne à la Russie jusqu'à la fin de la semaine pour répondre aux accusations de dopage.
Les accusations de dopage et de corruption à l'égard de la Russie, contenues dans un rapport de l'Agence mondiale antidopage, sont infondées, a déjà répondu le numéro 2 de l'agence russe antidopage, Nikita Kamaïev. De son côté, la Fédération internationale d'athlétisme va lancer la procédure d'application de sanctions contre la Russie demandée par cette même agence mondiale antidopage.
La NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Knicks de New York sont venus à bout des Lakers de Los Angeles, 99-95, lors de ce qui pourrait être la dernière apparition de Kobe Bryant au Madison Square Garden. Bryant, auteur de 18 points, a reçu un accueil inhabituellement chaleureux. À 37 ans, le quintuple champion NBA, dont le contrat avec les Lakers expire en juin, a peut-être joué le dernier match de sa carrière dans l'enceinte mythique new-yorkaise. De son côté, Cleveland a signé sa 6e victoire consécutive en battant Indiana 101-97. La Floride ne réussit pas à Toronto qui s'est incliné à Miami 76-96. Enfin, Oklahoma City a réagi après 3 défaites consécutives en battant sévèrement Phoenix 124-103 grâce notamment aux 32 points de Kevin Durant.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Gabi, le Sénégal.
À Dakar, ouverture aujourd'hui de la seconde édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. 800 personnes participent à cette réunion pour discuter des défis du terrorisme sur le continent. Et quelles sont les particularités de cette rencontre? Idriss Fall a joint pour un éclairage Cheikh Tidiane Gadio, organisateur du Forum sur la paix et la sécurité.
C'est un forum de concentration sur 3 thèmes majeurs. 1, le terrorisme, l'Afrique face au défi du terrorisme. 2, les réponses africaines au défi de la sécurité. Et 3, les partenariats internationaux de l'Afrique. L'idée, c'est que les Africains n'avaient pas suffisamment pris conscience du danger et de la présence des terroristes dans le continent. L'attaque des ambassades de Tanzanie et du Kenya n'avait pas sonné suffisamment l'alerte au niveau du continent. Les 10 ans de guerre en Algérie contre le terrorisme n'avaient pas non plus réussi à mobiliser le continent. Maintenant, avec la présence et les actions néfastes de Boko Haram dans plusieurs États du continent, la présence de Daesh en Libye, la présence des Shebab en Somalie et au Kenya, la présence de Acmi, de Moujaou, en Sardine et autres, il y a une sorte de phénomène de métastase du fléau terroriste. Et les événements malheureux du Mali, où un pays souverain a été attaqué, occupé par des groupes djihadistes, tout cela mis ensemble a quand même relevé le niveau de prise de conscience des Africains. Nous voulons en discuter, nous voulons mieux comprendre dans un forum informel. Il n'y a pas de démarche contraignante de résolution, c'est juste des échanges approfondis et libres. Bien entendu, un forum hybride où des chefs d'état-major côtoient des professeurs d'université, des ministres, des leaders de think tank, des chercheurs. Cette année, nous attendions 350 invités. On se retrouve avec 800 invités. 1000 participants ont été badgés. Donc, l'intérêt est extraordinaire.
Comment est-ce que l'Afrique peut répondre à la menace terroriste?
D'abord, le premier principe important sur lequel on doit s'entendre, c'est que personne ne pourra résoudre ou régler les problèmes du terrorisme, les autres défis de la sécurité en Afrique, si les Africains ne se mettent pas en première ligne. On ne peut pas sous-traiter notre sécurité, y compris avec des amis qui ont les meilleures intentions du monde. Alors, l'Afrique a maintenant un défi structurel. Nous avons 54 États, c'est ce que nous appelons la balkanisation de l'Afrique. Et ces États, pris individuellement, y compris les géants comme le Nigeria, ne peuvent pas tout seuls prendre en charge le défi du terrorisme. Nous sommes obligés et contraints à ce que nous appelons la mutualisation, la mise en commun de nos ressources, de nos intelligences, de nos compétences pour travailler ensemble à faire face aux défis du terrorisme. D'autant plus que nous avons affaire à des gens qui sont en réseau, qui travaillent ensemble, qui coordonnent leurs informations, leurs renseignements. Nous devons absolument faire la même chose, aller au-delà des préoccupations de souveraineté nationale pour comprendre que seules des forces régionales africaines, bien coordonnées, bien entraînées, bien équipées, peuvent aider le continent à faire face à cette guerre asymétrique, ce défi sans précédent dans l'histoire du continent.
Cheikh Tidiane Gadio, organisateur du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, le Conseil médical appelle à la fermeture de 1000 hôpitaux et centres de santé clandestins. Selon cet organe, la vie des millions de Camerounais qui fréquentent ces lieux est en danger. Il semble également que la majorité des médecins sont mal payés. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Les Camerounais fréquentent de plus en plus les centres hospitaliers privés. Au centre de santé Mount Zion à Yaoundé, nous avons rencontré près de 20 patients, parmi lesquels Yannick Ahanda, 52 ans. Il dit pourquoi il préfère les cliniques privées aux hôpitaux publics.
Je préfère les cliniques parce que les rendez-vous sont respectés, on ne s'aligne pas. Par contre, dans les hôpitaux, il faut attendre, il faut s'aligner. Parfois, on vous dit de revenir plus tard parce que le médecin est en conférence et ça prend du temps. Je préfère les cliniques.
Selon l'Ordre national des médecins du Cameroun, Mount Zion figure parmi les 200 centres de santé illégaux que compte la ville de Yaoundé. Le professeur Tétagne Ekwe est le vice-président de l'Ordre.
Il existe 1000 structures sanitaires clandestines à travers le pays dans lesquelles infirmiers, non-médecins, médecins non qualifiés prodiguent des soins qui ne sont nullement supervisés et contrôlés. On ne peut pas parler de la sécurité des citoyens camerounais et ne rien faire devant ce que vous décrivez et qui s'appelle le désordre. Et le désordre en matière de santé, c'est exposer les gens à la mort.
Si Yaoundé compte 200 centres de santé illégaux, la situation est bien plus grave dans d'autres régions du pays. Pour l'Ordre des médecins, 500 médecins sont formés chaque année avec 5000 aides-soignants. Depuis 20 ans, l'État ne recrute plus assez à cause de la crise économique survenue dans les années 1990. Le médecin est infirmier mal rémunéré par l'État, soit 300 dollars par mois chacun, offre les services à ces hôpitaux quand ils n'ont pas créé leur propre centre de santé. Pour qu'un médecin exerce librement, il faut qu'il soit reconnu par l'Ordre national des médecins, comme l'explique le professeur Tétagne Ekwe.
Nous ne nous cachons pas pour dénoncer cela parce que il y va, un, de la réputation du corps médical de notre pays. Deux, il y va de la santé et de la vie des citoyens. Vous et moi, vous sommes exposés le jour où vous avez un accident de la circulation, le jour où dans votre village, il vous arrive un accident de santé. Je ne suis pas sûr que je puisse jurer sur la Bible que le médecin, la personne qui viendra au secours, sera absolument qualifié pour le sortir d'affaire.
L'an dernier, le Cameroun avait annoncé la fermeture de 600 de ses centres, mais cette opération avait été stoppée pour des raisons qui restent inconnues. Beaucoup de Camerounais vont dans ces hôpitaux privés pour fuir la corruption qu'on rencontre dans les hôpitaux publics et aussi parce que, disent-ils, la prise en charge des patients est meilleure. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Cap maintenant sur le Mali. Pour préserver les manuscrits anciens de Tombouctou par la numérisation, l'ambassade des États-Unis au Mali met à la disposition de l'Institut Ahmed Baba des hautes études et de recherche islamique, une subvention de près de 100 millions de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée à l'ambassade à Bamako. Outre cette subvention, il y a eu la présentation du projet Timbuktu Renaissance. Reportage, Kassim Traoré.
C'est dans le cadre de la préservation du patrimoine culturel de la cité des 333 saints que l'ambassade des États-Unis d'Amérique met une subvention de 100 millions de francs CFA à la disposition de l'Institut Ahmed Baba des hautes études et des recherches islamiques. Paul Folsby, ambassadeur des États-Unis au Mali.
L'Institut Ahmed Baba a été choisi comme récipiendaire du fonds de l'ambassadeur parce que les manuscrits de Timbuktu ne sont pas seulement un trésor malien, mais il représente un patrimoine pour toute l'humanité. Le patrimoine culturel du monde fait malheureusement partout l'objet d'attaques de la part d'extrémistes partisans de la violence.
Le directeur de l'Institut Ahmed Baba de hautes études et de recherches islamiques apprécie à sa juste valeur l'appui du gouvernement américain. Abdul Kadri Idrissa Maïga.
Quand les États-Unis d'Amérique vous donne quelque chose. Il ne vous donne pas parce que vous êtes Jacques ou bien Ibrahim, il vous donne ça parce que vous méritez.
Au cours de cette cérémonie, les journalistes ont pu regarder une vidéo de 10 minutes sur le projet Timbuktu et Renaissance, initié par des Maliens et des Américains pour la relance économique de Timbuktu à travers des activités culturelles. Cynthia Schneider, professeure et co-directrice du projet.
On commence le premier pas concret, c'est ce centre d'innovation et culture à Timbuktu, où il va des ordinateurs, du Wi-Fi, de la formation, un domaine dans l'enregistrement, bien sûr, de la musique, tous avec l'idée d'aider les gens à gagner leur vie dans le développement économique. Dans l'avenir plus loin, on imagine des tranches d'agriculture.
Les représentants du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, a mis l'ensemble de la cérémonie dans un sac qu'il a appelé le Mali qui gagne. Professeur Drissa Diakité.
C'est une cérémonie pour tout le Mali. C'est celle du Mali qui gagne. Parce qu'il s'agit d'une cérémonie de lancement d'un prix dont l'Institut de hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba a été lauréat, de même que d'autres promoteurs de culture au Mali.
Le but de la subvention américaine est de renforcer la capacité de conservation de l'Institut Ahmed Baba, le nettoyage des manuscrits et la mise en œuvre d'un système de stockage amélioré. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Plus de pauvres sur la planète si rien n'est fait contre le changement climatique. Selon la Banque mondiale, plus de 100 millions de personnes supplémentaires seront sous le seuil de pauvreté d'ici 2030. Il est urgent d'adopter des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour protéger les populations défavorisées, recommande la Banque mondiale dans un nouveau rapport dénommé Onde de choc, la gestion des effets du changement climatique sur la pauvreté. Nathalie Barge a joint Marco Naïsangui, président de l'organisation écologique Brainforest.
Les enjeux se situent entre les deux puissances, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis. Tant que ces deux qui sont à la pointe de ces émissions ne font pas les concessions, chacun voudrait rester sur sa position, tout simplement parce qu'il y a la course vers la croissance, l'industrialisation. Les petits pays ne vont que subir cette hégémonie qui est en train de prendre des proportions à l'avant au niveau du climat. Est-ce qu'on pense que la Chine voudrait réduire son industrialisation ou bien les États-Unis voudraient être supplantés par les Chinois? Je ne pense pas. Il va falloir que la communauté internationale prenne sérieusement ses responsabilités pour taper du poing sur la table, sinon on fonce droit dans le mur. Regardez tout ce qui est en train de se faire dans nos pays en termes de déforestation. Regardez tout ce qui est en train de se faire en termes de production minière ou pétrolière, avec tout ce que cela comporte comme émission de gaz à effet de serre. Il n'y a pas une volonté de réduire. Et la pollution qui accompagne toute cette industrialisation autour, bien d'exploitation, est freinée de nos déchets.
Alors, vous allez participer à la conférence sur le climat à Paris pour représenter la société civile. Qu'est-ce que vous allez demander à la communauté internationale?
Nous allons demander à la communauté internationale d'arrêter cette hypocrisie. Effectivement, il y a de très bonnes intentions de certains chefs d'État, des chefs d'État africains. Or, ces chefs d'État sont derrière des projets de destruction de notre écosystème, des projets de multiplication de la monoculture dans différents pays, des projets de braconnage à outrance des éléphants. Regardez bien le Gabon, par exemple. Toutes les défenses d'éléphants qui ont été arrêtées au Togo il y a 2 semaines, près de 200 tonnes d'ivoire, cette cargaison provient du Gabon. Et ce pays qui se présente au niveau international, comme le grand champion en Afrique centrale de préservation des écosystèmes de lutte contre le braconnage, ce sont des chiffres qui viennent du Gabon, pas ailleurs.
Marco Naïsangui, président de l'organisation écologique Brainforest.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, le les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Si vous mettez ensemble discipline et performance, ça vous donne Lionel Gaïma. Merci Lionel pour la mise en onde. Présentation de cette édition, Morgane Guiriec et chez Robin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.